Père Jacques Ciodo, bonjour.
Bonjour. Bien. Alors, nous avions vu les fois précédentes l'historique de la bioéthique, la façon dont elle s'était formée, et puis on avait vu les principes que l'on avait proposés pour guider la réflexion en cette bioéthique. Il y avait les fameux quatre principes, l'autonomie, le bien, éviter le mal et la justice. Et on avait vu les compléments qu'apportait aussi ce qu'on appelait la bioéthique globale, qui apportait en plus la question du respect de la vie, la question de respect, de la non-exclusion des personnes, de l'entraide. Mais cette bioéthique ainsi définie, elle n'est pas née dans le vide. Elle n'est pas née tout d'un coup de l'imagination de quelques-uns. En fait, elle a été précédée et elle est accompagnée par un certain nombre de traditions philosophiques, de modes de pensée qui ont une influence déterminante dans les propositions éthiques de la bioéthique. Alors, il y en a de multiples et aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Et l'on va parler de la morale naturelle et de la position personnaliste. Morale naturelle, c'est un grand mot qui a été souvent discuté. Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a très peu de gens qui arrivent à dire ce que c'est. Elle est évoquée il y a très longtemps dans la pièce de Sophocle, Antigone, qui traitait de Antigone, qui était une jeune fille qui voulait enterrer son frère, et il était interdit d'enterrer le frère. Antigone le fait, elle va être arrêtée, ce qui va lui conduire à la mort. Et Antigone dit cela en disant pourquoi elle s'est opposée à la loi civile, à la loi de la cité, en disant ce sont des lois divines, lois non écrites, celles-là, mais intangibles. Ce n'est point d'aujourd'hui ni d'hier, c'est depuis l'origine qu'elles sont en vigueur, personne ne les a vues naître. Alors, beaucoup plus proche de nous, le pape Benoît XVI a défini cette morale naturelle comme le message éthique qui est écrit dans l'être humain, quel qu'il soit. C'est l'ensemble des exigences d'ordre moral et juridique qui découlent de la structure même de la nature humaine, parce qu'on est humain. C'est-à-dire de l'homme en tant qu'être intelligent et libre, doué de sociabilité, fait pour vivre en société, et relié par ses fibres les plus intimes à l'universalité de l'humanité. Sa norme fondamentale n'est autre que celle-ci, homme agit en homme. Pour le croyant, la loi morale naturelle, c'est une participation à la sagesse et à la bonté de Dieu, du Créateur. Cette participation permet à l'homme de discerner le bien du mal, c'est-à-dire ce qui va pour sa nature, lui permettre de développer sa nature humaine ou au contraire contre ce développement. Donc d'une part ce qui convient à cette nature d'être intelligent et libre, et d'autre part ce qui s'y opposerait. Alors la loi morale naturelle, elle est le fruit de la raison. C'est-à-dire qu'elle ne se présente pas dans notre tête comme toute faite avec 40 principes. Non. Notre raison va chercher en elle-même ce qui permet justement de discerner le bien, le positif du mal, ce qui convient à sa nature. Et c'est comme ça que la raison va découvrir la loi, la fameuse règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse lui-même. Elle découvrira des interdits depuis toujours, prohibition de l'homicide, prohibition de l'inceste. Alors, il y a deux aspects dans cette morale naturelle. Un premier aspect, l'homme est le même depuis toujours. Depuis qu'il existe comme homo simplex, comme il était à l'époque de Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui, il est le même, avec la même intelligence et les mêmes compétences. Donc, la nature humaine étant identique, la morale naturelle, elle est absolue. Elle a un caractère absolu, universel. Mais, parce que l'homme est un être historique et contingent, elle a aussi un aspect relatif, et c'est ce qui nous trouble. Celui qui a mieux développé cette idée de la morale naturelle, c'est saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, qui a consacré toute une partie de son traité sur les lois. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, la loi morale naturelle que l'on trouve par notre raison en nous-mêmes, elle est participation à la sagesse éternelle de Dieu. Et cette sagesse éternelle de Dieu, elle se manifeste dans les lois physiques qui régissent le cosmos, le monde, elle se manifeste dans les instincts des animaux, et elle se manifeste dans tout ce système de lois que nous trouvons dans le monde tel qu'il existe. Alors, cette participation à la loi éternelle fait que les êtres vivants possèdent en eux-mêmes des tendances innées qui les poussent aux actes, qui leur permettent de rejoindre leur fin. Alors, pour les animaux, pour les êtres non rationnels, ce sont les instincts. Et un petit chat n'aura pas besoin qu'on lui apprenne à chasser. Il chassera les souris. De même, une araignée fera sa toile. Donc, les animaux ont ces instincts qui assurent leur survie et qui assurent le fait qu'ils soient tels que leur nature le veut. Maintenant, l'homme est différent parce qu'en lui, il a cette raison, il est intelligent. Et il est du coup libre. Et du coup, il pourra par lui-même prendre des orientations qui correspondent à son bien. Mais il y aura toujours cette question de liberté. Il peut prendre des orientations contraires. Donc chez l'homme, la loi morale naturelle n'est pas un instinct. Elle n'est pas comme un système de commandement déjà tout prêt qu'on trouverait inscrit dans notre tête en lettres d'or. Non. Elle correspond, c'est ce qui est inné en nous, c'est le but final de notre existence, ce qui fait l'humain, le bien qui correspond à la nature humaine. Ça, on n'a pas besoin d'explication, on le trouve. La loi naturelle, c'est ce qui va, en l'homme, assurer l'orientation première des actes de l'homme vers ce bien, vers ce qui tend à développer l'homme en l'homme. Donc elle est très générale, et son principe premier, ben, c'est recherche le bien et évite le mal. Et ces notions de bien et de mal, eh bien, vont être trouvées par la raison, scrutant ce qu'est vraiment la nature de l'homme, ce dont il a besoin. Alors ceci s'exprime par ce qu'on appelle les inclinaisons naturelles. La raison, cherchant en elle-même, va découvrir en elle-même un certain nombre d'appétits ou d'inclinaisons naturelles qui va pousser l'homme à rechercher une série de biens très généraux. Alors, ce sera très varié, ces inclinaisons naturelles. On trouvera chez l'homme, par exemple, comme chez les animaux, des instincts naturels qui correspondent aux instincts du corps. L'union des sexes, le besoin de se nourrir, le besoin de se maintenir en santé, ça c'est d'accord. Mais il y aura d'autres biens qui correspondront à sa nature propre d'être rationnel, intelligent et libre. Ce sera la recherche de la connaissance, la recherche de la vérité, la recherche de la justice, la recherche de la vie en société, la recherche de l'amitié. Et là, ce sera déjà un niveau supérieur. Et puis, on trouvera aussi d'autres éléments, d'autres biens, qui, eux, ne sont pas des buts en eux-mêmes, qui sont des moyens pour arriver au but supérieur. Par exemple, lutter contre l'ignorance, ne pas faire de tort à son prochain, agir librement. Alors, moyennant quoi ? Plus la morale naturelle qu'en trouvons-nous va vers le particulier, et plus il devient difficile de soutenir qu'elle est universelle. Et là, on aura une influence des cultures, des époques, des lieux. Et plus donc on rencontrera d'exceptions. Jules César, par exemple, donnait comme exception le fait que chez les Germains, la pratique du brigandage était totalement acceptée alors qu'elle était contraire à la loi romaine. Alors cette loi morale naturelle, telle que l'a développée saint Thomas d'Aquin, avec cette notion des inclinaisons naturelles, elle a été reprise à l'époque moderne par trois auteurs contemporains, Germain Grisès, John Finnis et Joseph Boyle, qui ont développé la notion non plus d'inclinaisons naturelles, mais ce qu'ils appellent les biens fondamentaux. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la raison, recherchant en elle-même, trouve un certain nombre de biens supérieurs qui ne sont pas déduits de l'extérieur à partir de faits ou d'expériences, mais qu'on trouve tout de suite et qui donnent tout de suite une raison positive à l'action humaine. La recherche de ces biens conduit à l'épanouissement et à la réalisation de l'homme en l'homme. Alors, on va revenir tout de suite, mais on dit tout de suite, on va montrer qu'à côté de ces biens fondamentaux, existe ce qu'on appelle des biens de préférence, ou bien particuliers, ou bien de l'envie. Alors là, qui vont dépendre énormément des sociétés, des individus. Et les gens, ils vont trouver un petit bien particulier qu'ils vont développer, qui peut être l'amour de l'argent, l'amour de la puissance, l'amour du pouvoir qu'on a sur les autres. Alors, le fait que ces biens particuliers, si l'on met toute sa recherche sur ces biens particuliers, on se déshumanise. Si le sujet fait de ses biens particuliers le but de son action, il vide sa personne de son humanité. Une personne qui s'intéresse qu'à l'argent, elle est demi-humaine. Autre bien, les biens intermédiaires. Alors, ce sont des biens qui permettent l'accès aux biens supérieurs, et en particulier, par exemple, la liberté. La liberté n'est pas un bien en elle-même, elle est un bien dans la mesure où elle permet d'agir, de s'engager, etc. Alors, ces biens fondamentaux permettent à l'homme de se réaliser et de s'accomplir comme personne. Ils sont intrinsèques à l'être humain, ils n'ont pas besoin d'explication, ce sont des vérités évidentes en soi. Et quand on les recherche, leur recherche simultanée va aboutir à l'harmonie intérieure, à cette espèce de sérénité que les religions orientales donc, ont bien trouvé hein, dans toutes les pratiques comme le yoga ou autres, on recherche cette sérénité intérieure. Alors la liste de ces biens fondamentaux est assez variable. Elle dépend des auteurs, mais disons qu'on peut en trouver une dizaine. D'abord, la vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rien. Donc la vie est le principe de ces biens fondamentaux. La transmission de la vie, avoir des enfants. La santé physique et psychique, c'est évident. La sexualité, mais dans toute sa totalité, pas uniquement la génitalité, ou pas uniquement les sentiments, mais tout, dans toute sa dimension. Elle est très importante. La connaissance, nous sommes des êtres qui désirons connaître. Le jeu fait partie des biens fondamentaux humains. L'expérience du beau, l'expérience esthétique, c'est un bien fondamental. L'unité de la personne, son intégration, le fait qu'on n'est pas en tyrannie en nous-mêmes, la sérénité, je le dis, la cohérence de notre pensée, l'amitié, la vie en société, la sociabilité, la famille, la justice, la sûreté, l'auto-accomplissement, le fait de faire des choses et d'être reconnu en faisant des choses, la reconnaissance de la part des autres et l'aspect spirituel. Alors tous ces biens, ils sont évidents. On n'a pas nous. Si on essaye de les définir, on aura énormément de mal. Pourquoi le beau ? Essayez de définir pourquoi vous aimez le beau. Ben vous aimez le beau parce que vous aimez le beau. Pourquoi voulez-vous connaître ? Parce que c'est intéressant. Eh oui, vous aimez connaître parce que c'est intéressant de connaître. Donc, on tourne en rond. On n'arrive pas à les définir et c'est justement ce qui montre qu'ils sont fondamentaux. Il y a quand même une certaine hiérarchie entre ces fondamentaux. La vie est certainement le bien numéro un. Sans la vie, il n'y a rien. Une règle, il faut chercher tous les biens fondamentaux ensemble. Il ne faut pas en prendre un. Donc il faudra chercher à la fois maintenir sa vie, maintenir sa santé, chercher à connaître, s'intéresser aux choses, rentrer en amitié avec d'autres personnes, vivre dans la vie sociale, chercher la sérénité intérieure. Donc ne pas en exclure un. Et surtout ne pas se tromper, ne pas prendre un bien de préférence, un bien particulier comme l'argent ou le jeu ou le pouvoir comme en faire un bien fondamental. Ça serait une énorme erreur que les gens font souvent. Et dans la recherche des biens fondamentaux, automatiquement, la promotion du bien commun y rentrera. Il est très difficile d'avoir tous les biens tous ensemble et totalement, mais on ne peut pas en exclure un. Alors, cette loi morale naturelle, elle se reflète dans toutes les grandes déclarations des droits et devoirs de l'homme. On peut citer le décalogue, les 10 commandements, qui est la première expression de la loi morale naturelle. On peut citer la grande charte du Parlement anglais de 1215, la déclaration des droits américaine. Celle qui est la plus récente, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est une expression typique de la morale naturelle parce qu'elle suppose une nature humaine universelle. Elle s'adresse à toute l'humanité. Et le pape Benoît XVI, dans son discours là-dessus, en 2008, rappelait que les droits de l'homme trouvent leur fondement dans la loi morale naturelle inscrite au cœur de l'homme et présente dans les différentes cultures et civilisations. Alors, ce qui est intéressant dans cette déclaration des droits, c'est l'expression « tout individu » qui revient très régulièrement. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de cette personne. Il y a deux points où ça diverge un peu. Dans le préambule, on parle de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, ce qui est une autre façon de dire tout individu. Et l'article 1, on dit « tous les êtres humains naissent libres et égaux ». Donc, on a ces trois expressions, tout individu, membre de la famille humaine, être humain. Alors, et devant ces qualités, la personne humaine revêt une dignité, c'est-à-dire qu'elle doit être respectée. Et cette dignité, cette nécessité de respecter la personne humaine où qu'elle se trouve, elle ne repose pas sur la capacité particulière de tel ou tel individu d'agir, d'être intelligent, de transformer le monde, mais elle repose sur la participation de cette personne à l'espèce humaine. Donc, la déclaration met ainsi un certain nombre en ligne, un certain nombre de droits fondamentaux qui permettent tous de rejoindre les biens fondamentaux, et en particulier le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la sûreté, le droit à la justice, etc. En bioéthique, cette loi morale naturelle va s'exprimer surtout en deux points. Elle va souligner le caractère sacré de la vie humaine et la dignité de la personne humaine. Caractère sacré de la vie humaine depuis son départ au niveau de la première cellule jusqu'à la mort naturelle, y compris la mort naturelle. Donc, la vie humaine, elle est sacrée, quel que soit l'état de conscience de la personne, quelle que soit son intelligence, sa capacité de décider. Et cette personne humaine a une dignité, elle doit être respectée. Cette notion permet d'éviter toutes les erreurs et les dérives relativistes qu'on trouve en bioéthique. On va choisir un bien particulier. J'ai le droit à mon corps, par exemple. Ou bien j'ai le droit à mourir, par exemple. Donc on prend un bien particulier et les grandes erreurs, on le passe comme si c'était un bien fondamental. Et la loi morale naturelle nous permet d'éviter cet écueil. Quel est son intérêt? Eh bien, son premier intérêt, c'est qu'elle favorise le travail de la conscience et de la raison. La capacité de dialoguer intérieurement, la capacité de discerner le bien du faux, etc. Donc, elle est intéressante parce que ce n'est pas une série de préceptes venus de l'extérieur comme une loi civile qui s'imposera à la raison, mais qu'au fond, elle vient du travail de la raison. Deuxièmement, elle est universelle, donc on peut parler un langage commun avec tous les autres hommes. Avec toute l'humanité, on devra respecter la personne humaine. Et puis, face à la pensée contemporaine, elle est éclatée. Comme on a refusé toute référence à la religion, comme on a éliminé les grandes pensées universelles, on a une pensée éclatée, par morceaux, par bribes. Et du coup, ça explique le fait que de plus en plus, on emphatise le rôle juridique. C'est la loi qui va remplacer la morale dans notre époque contemporaine. Et la loi est très variable. Et du coup aussi, on a diminué la réflexion éthique, la réflexion morale, en s'appuyant simplement sur des lois. En médecine, c'est très important parce qu'en bioéthique, le problème, c'est qu'on a éliminé le système hippocratique, on a éliminé ce qui faisait les normes de toujours, puis on a remis en question toutes les philosophies de base, et on a rejeté tout lien avec les religions, les systèmes de pensée, et du coup, il n'y a plus de valeur. On a évacué les valeurs. Et on a remplacé ça par la technicité. Et on voit bien aujourd'hui avec la crise du Covid, l'important est le problème de ce vide. Ça s'est réduit à un système de pensée très réducteur de préceptes qui venaient de l'extérieur. La loi morale naturelle repermet de réunir les fragments de cette pensée éclatée pour donner une base philosophique cohérente, anthropologique, à l'éthique des principes comme à l'éthique globale. Alors, le modèle personnaliste, il ne reste pas beaucoup de temps pour le faire. Elle vient d'Emmanuel Mounier, qui l'a développé durant la Seconde Guerre mondiale. Et au fond, son principe, c'est qu'une action est bonne dans la mesure où elle respecte la personne humaine et contribue à son épanouissement. Dans le cas contraire, elle est mauvaise. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'une personne? Le terme personne désigne l'être humain tel qu'il existe réellement, l'être humain en acte. C'est cette nature humaine qui est le sujet de ses propres actes. La nature humaine en acte. Donc, elle indique tout ce qui va être spécifique à l'homme et qui le différencie des autres êtres vivants qui n'agissent que par l'instinct. Donc, elle va, cette notion de personne, elle est très liée à la capacité de la raison et elle va fonder la dignité et les droits de la personne. Ce n'est pas une notion abstraite, mais elle désigne le sujet. Alors, la personne, au fond, elle est très difficile à définir sur ça. On peut dire c'est un corps mais spiritualisé, c'est un esprit mais incarné, et le corps et l'esprit sont absolument liés entre elles. Ce qui est, au fond, la meilleure définition, c'est celle qui est donnée par Kant, qui dit « je m'approche d'une personne humaine, je m'approche d'un être humain, je le reconnais comme être humain, comme je reconnais un chat ou un chien, et du coup j'ai un certain respect vis-à-vis de lui. Et je désirerais entrer en communication avec cette personne. » La personne dit dignité. C'est un concept complètement attaché à la notion de la personne. Je la respecte. Maintenant, il y a deux façons de comprendre le mot de dignité. Ou bien on se réfère à la dignité particulière d'une personne particulière en fonction de ses qualités, de ce qu'elle a déjà effectué, et c'est très souvent la façon dont on parle de la dignité, ou bien on parle de la dignité qui est liée à la nature de la personne humaine, et Kant disait « l'humanité en elle-même est une dignité ». L'homme a une dignité pour la simple raison, oui, qu'il est homme et femme. Alors, c'est cette dignité qui est à la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Alors, c'est bien la notion de rationalité, de raison qui définit la personne humaine, mais attention! La personne, effectivement, se présente à nous au travers des manifestations de cette raison. Mais cela ne signifie pas que ce soit les manifestations elles-mêmes qui constituent la personne. En fait, c'est l'inverse. Un individu n'est pas personne parce qu'il se manifeste comme personne, par le langage, par exemple. Il se manifeste comme tel en parlant, en communiquant, parce qu'il est personne. C'est le fameux adage « agere, c'est culture et c'est ». L'agir suit l'être. Il y a d'abord la personne, son existence, qui va se manifester ensuite à l'extérieur. Donc il n'est pas nécessaire que la rationalité soit réellement présente en acte, en opération, pour qu'on reconnaisse sa dignité. Quand la personne dort, ben, apparemment elle n'agit pas. Quand la personne est dans le coma, apparemment elle n'agit pas, et pourtant elle garde sa dignité. Donc il suffit que la dignité soit comme forme de capacité. Dès que la personne se sera réveillée, dès que la personne sera sortie du coma, dès que la personne se sera développée comme être humain, eh bien, justement, mais cette capacité était déjà là. Quelles sont les conséquences de cette vision personnaliste en bioéthique? Eh bien, on va avoir d'abord l'importance du corps, parce que le corps, il fait partie essentielle du sujet. J'existe au travers du corps. Je me manifeste au travers du corps. C'est le corps qui me donne mes limites. C'est le corps qui est pour moi un instrument. Et le problème, c'est que justement, ce corps doit être respecté. On ne l'a pas construit, on l'a reçu. Et le problème, c'est que chacun de nous a du corps des autres, le concept qui s'est formé à partir de sa propre personne, de sa propre corporalité. S'il a banalisé son corps, s'il en a fait un simple instrument de plaisir, il croira que les autres pensent exactement de la même façon. Alors, la corporalité, la valeur de la corporalité est très importante quand on pense à toute la question, à toute la zone de la sexualité. Aujourd'hui, on tend à couper la sexualité en petits morceaux. Il y aura la génitalité d'un côté, et puis il y aura les sentiments. Non. Et donc, la notion de l'unité totale entre le corps et le jeu est très importante pour comprendre la position, par exemple, de l'Église sur les questions de procréation. Ensuite, la défense de la vie, c'est le bien fondamental, qui passe même avant la liberté. La vie n'est pas quelque chose d'extrinsèque, elle est nous. Alors, c'est vrai que la vie du corps n'épuise pas toute la richesse de la personne, mais elle est essentielle. Le jeu est incarné. Ce jeu est libre, mais la liberté s'exprime dans la responsabilité. et ça c'est une grande importance aujourd'hui, c'est pas une liberté de ne rien faire, de ne pas s'engager, c'est au contraire une liberté d'agir pour des valeurs. Et du coup, dans cette zone de liberté, le corps appartient à la personne et nous sommes responsables de notre corps. Nous ne pouvons pas en faire n'importe quoi. D'où l'importance, par exemple, du consensus du patient. En thérapeutique, eh bien, la médecine, on a le droit d'intervenir sur le corps, mais attention, on ne peut l'intervenir que d'abord s'il y a le consentement de la personne, deuxièmement, s'il y a vraiment une maladie présente, une pathologie. Si on a une autre méthode de traitement, une autre façon de faire, on doit la choisir. Il faut qu'il y ait une garantie de succès. Et on ne peut pas détruire une partie du corps comme cela. On ne peut détruire une partie du corps que pour le bénéfice du tout. On ne peut pas détruire le corps pour le bien d'une partie. Par exemple, je ne pourrais pas changer de sexe simplement pour résoudre mes problèmes psychologiques. Très importante dans la vision personnaliste, c'est la socialité. La personne humaine est ouverte à la vie en société. Elle reçoit de la société, elle reçoit les moyens, elle reçoit le stimulus. On le voit bien aujourd'hui avec les EHPAD où les personnes sont très isolées. On vit des rapports avec les autres. Et si on n'a plus de rapports, on meurt. En même temps, chaque personne en retour doit offrir à la société sa propre contribution. Et dans ce principe de la socialité, on doit considérer notre propre vie et la vie des autres comme un bien social sur lequel on ne peut pas revenir. Associé à cette socialité, la subsidiarité, c'est-à-dire que on doit s'entraider et reconnaître à tous l'égale dignité. On doit donner plus d'aide à celui qui possède moins de ressources. En même temps, on doit reconnaître la valeur de l'initiative individuelle de celui qui peut se débrouiller par lui-même. On ne doit pas faire le travail de quelqu'un quand ce quelqu'un peut très bien le faire par lui-même. On doit soutenir les initiatives. Et le grand principe, c'est qu'il faut aider davantage celui qui est le plus malade. Et ce qui va contre les principes utilitaristes, par exemple, où l'on aurait tendance à moins s'occuper des personnes âgées ou des personnes handicapées, etc. Au contraire, on doit donc avoir un principe d'allocation des ressources de telle façon que l'aide doit aller à la personne qui en a le plus besoin. Alors cette vision personnaliste, associée à la vision de la morale naturelle, nous donne un champ très très équilibré et très complet pour envisager les questions qui se posent à la bioéthique, soit en ayant recours à la morale naturelle, par exemple, pour toutes les questions de sexualité, soit en recourant à la question de la dignité, par exemple, pour toutes les questions du début et de la fin de vie, soit la morale naturelle et le personnalisme éclairent les fameux quatre principes de la bioéthique dont j'avais parlé auparavant. Merci bien.
Père Jacques Ciodo, cette notion de personne humaine qui est très importante, parce que difficile, pas si difficile que ça à définir, mais finalement l'évolution des mentalités font évoluer cette définition. Et cette notion est d'autant plus importante que certaines personnes vont dire qu'un embryon, finalement, n'est pas une personne humaine, mais un amas de cellules dont on peut faire ce qu'on veut. Donc, cette définition est très importante, justement, de pouvoir définir la personne humaine de son potentiel de départ lorsqu'elle est embryon jusqu'au terme de la vie.
Oui. Alors là, vous avez pris le cas de l'embryon, effectivement, où la morale naturelle nous aide. Parce que ce que l'on va dire, c'est que l'être humain doit être respecté comme une personne depuis le premier instant de son existence jusqu'à sa fin. Pourquoi ? Parce que si l'homme n'existe pas en tant que tel dès le début, c'est-à-dire dès la première cellule, il ne sera jamais. Sa qualité d'être humain ne lui sera pas injectée de l'extérieur par quelques principes mystérieux venus de la mère ou de la société. Donc, toute la valeur de la personne humaine, elle est déjà dans cette première cellule. Et après, on a simplement un développement de capacités. Toutes les capacités, elles sont déjà là, dans cette première cellule. Elles sont simplement appelées à se développer, à apparaître au fur et à mesure où les structures nécessaires, les structures support, sont déjà là. Donc l'adulte, il est déjà inscrit dans l'embryon et il est prêt à s'exprimer petit à petit, dès que les structures nécessaires seront développées. C'est le même acte d'existence, qu'on peut dire existentiel, qui fait le développement. Alors c'est ce que disait d'ailleurs Tertullien, il est homme, celui qui le sera. Le début de la corporité humaine, la première cellule, signe au fond le début de l'individu humain, protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Alors, si vous me permettez peut-être un parallèle avec le droit, je fais appel à mes anciennes connaissances lorsque j'étais étudiante en droit. Il me semble qu'en droit français, je fais le parallèle entre personnalité juridique et personne humaine. La personnalité juridique n'est pas accordée à un enfant mort à la naissance s'il est jugé non viable. Donc, la difficulté aussi pour le médecin qui accouche la jeune maman de définir que cet enfant qui est mort à la naissance était viable ou non viable. Alors que c'est même avec une maladie qui fait que cet enfant n'était non viable, c'est quand même une personne humaine. Or, le droit français, il me semble qu'il n'y a pas eu de changement là-dessus, n'accorde pas la personnalité juridique à ces enfants.
Oui, mais ça c'est la question de ce qu'on appelle le droit positif. Le droit positif, c'est ce qui nous plaît et c'est ce qu'on met. Ça ne veut pas dire la morale. Alors, dans la morale naturelle, là on va au fond des choses, et on s'interroge sur la réalité. Alors après, ça sera très variable. À une époque, on considérait que l'être humain commençait quand il faisait les premiers mouvements dans le ventre de la mer. Par exemple, la Constitution américaine déclare que les citoyens américains, celui qui a la tête extérieure de l'utérus, des choses comme ça. Mais ça n'a qu'une valeur très relative. Ce qu'une loi a fait un jour, pour une autre loi pourra le défaire. Donc il faut relativiser cette notion. C'est vrai qu'elle est importante au niveau juridique. Mais justement, ce que je disais, c'est que notre problème avec l'éclatement de la pensée contemporaine, la disparition de toute référence à des valeurs, on en est réduit à un stade juridique. On est très très juridique. Qu'est-ce que dit la loi ? Et alors du coup ? Et donc on évite de penser. Alors vous voyez très bien cette notion de viabilité. Qu'est-ce que ça veut dire la viabilité ? Aujourd'hui, on est capable de maintenir des enfants en vie alors qu'ils s'en sont presque au sixième mois de la grossesse. Et un jour, on arrivera à avoir l'utérus artificiel qui permettra d'avoir un enfant vivant depuis le départ jusqu'à la fin sans être dans l'utérus d'une mère. Donc la loi humaine, elle a la valeur ce qu'elle a. Nous la respectons, d'accord, mais elle n'est pas un principe moral. Elle nous donne des choses pour nous guider sur le moment. Voilà.
Oui, en fait, la vérité étant immuable, on ne peut pas se baser sur les changements de loi qui feraient évoluer la vérité. La vérité est ce qu'elle est.
Exactement.
Et elle ne peut pas être modifiée.
La vérité. La loi est une approche de la vérité, plus ou moins relative, et qu'on modèle en fonction de nos besoins du moment. Donc on est très... Par exemple, les assemblées, ben elles valent ce qu'elles valent. Elles vont décider, par exemple, qu'on va étendre le droit à l'avortement un peu plus tard, ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas une vérité. C'est un accommodement qui nous va bien actuellement.
Alors, nous avons reçu un message d'Albert qui écrit « Un grand merci, Père, pour votre enseignement. Sera-t-il possible d'en avoir une copie ?» Alors, Albert, cette émission sera en podcast sur notre site internet et vous aurez tout le loisir de réécouter l'exposé du Père Jacques Ciodo. Alors, Père Jacques Ciodo, nous arrivons au terme de cette émission. Il nous reste deux ou trois petites minutes. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour conclure ?
Non, alors, ce que j'aurais... Bien sûr, il aurait fallu développer davantage ce personnalisme. Mais cette question, l'outil du personnalisme nous permet, au fond, d'avoir une réponse à toutes les questions très compliquées en bioéthique. Par exemple, la question du prélèvement des organes, les questions de fin de vie. L'orientation du personnalisme associée à cette morale naturelle nous permet d'apporter une bonne réponse en recherchant la vérité et en ne s'arrêtant pas justement à un désir particulier. Aujourd'hui, nous sommes bourrés d'injonctions qui viennent de désirs particuliers, de groupes de pression, d'idéologies. Et donc là, derrière la morale naturelle, il y a cette idée de rechercher la vérité qui est le principe même de la philosophie. Hein. Écarter tout ce qui est idéologie, écarter tout ce qui est les influences des modes ou des choses, ou le gender, ou des trucs comme ça, et pour voir quel est réellement le bien de la personne, qu'est-ce qui réellement lui permet de s'épanouir à ce moment-ci. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Père Jacques Sudot.
Bonne journée.
Et on vous retrouve pour une prochaine émission.
C'est ça.
Au revoir.